vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Imaginez un confinement mondial et même un déconfinement mondial sans Internet. À côté de quelles pépites serions-nous passés? Il y a eu ces musiciens qui ont fait assaut d'inventivité pour écrire des morceaux originaux ou pour enchanter nos oreilles et nos yeux par webcam interposée. Il y a eu ces comédiens d'un jour ou de toujours qui se sont livrés à de petites scénettes ou à de grands sketchs dans un format inédit. Il y a eu ces plasticiens tout heureux de présenter en ligne des œuvres plus ou moins éphémères. Mais il y a aussi ceux qui, face à l'impossibilité de se faire une toile, ont investi la toile. C'est ainsi que si la plupart des grands rendez-vous du cinéma mondial ont été annulés, un festival d'un nouveau genre a débuté vendredi dernier. Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Jean-François.
Le festival We Are One, c'est son nom, est entièrement gratuit et en ligne. Il propose jusqu'au 7 juin d'amener longs et courts métrages directement à la maison, tout en lançant un appel aux dons pour la lutte contre le Covid. Ça se passe sur la plateforme YouTube jusqu'au 7 juin donc. Et Amélie, vous avez assisté au premier jour depuis chez vous.
C'est un festival sans tapis rouge, sans costume trois pièces ou robe à paillettes, sans autographe, et au lieu des fauteuils de salle de cinéma, tous les spectateurs sont confortablement installés dans leur canapé. Le coup d'envoi a été donné vendredi après-midi sur la chaîne YouTube de We Are One. Pendant 10 jours, c'est ici que tout se passe. Pas de cérémonie d'ouverture, mais une succession de petits messages vidéo enregistrés par de grands réalisateurs et acteurs comme Whoopi Goldberg ou encore Robert De Niro, qui est à l'initiative du projet avec le festival de Tribeca. Des cours, des longs métrages et des documentaires sont programmés à des heures très précises, comme lors d'un festival physique, et chaque contenu a été proposé par l'un des 21 festivals partenaires parmi les plus renommés. Cannes, la Mostra de Venise, Sundance, la Berlinale, le Festival de Mumbai, Sarajevo ou encore Toronto.
Tu me mets au milieu de nulle part pour tirer à la mitraillette. Tu me fais la leçon, tu me tires dessus, tu bousilles la bagnole, t'as même pas un pneu de rechange, maintenant il va faire nuit, il fait 2 degrés. Moi je devais être rentrée à 5 heures et quoi, j'ai pas le droit de faire la gueule? Tu trouves que j'exagère?
Pour l'ouverture, les spectateurs du monde entier ont découvert 3 petits films d'animation des studios DreamWorks. Un échassier qui tente d'attraper un poisson arc-en-ciel, un oisillon perdu dans le désert australien, ou encore un robot vivant sur une autre planète qui rêve de pouvoir rejoindre la Terre. 3 courts-métrages qui ont été proposés par le festival d'Annecy, et j'en ai profité pour discuter avec son directeur, Mickaël Marin.
Chaque festival avait du contenu à proposer, avec comme cadre le fait d'avoir des films qui n'étaient pas forcément disponibles sur la toile. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Marcel Jean, notre délégué artistique, c'est d'avoir une programmation qui a l'image de ce qu'est Annecy, des courts-métrages qui s'adressent à la fois à la famille, mais aussi les adultes. Différentes techniques pour montrer au public ce qu'est la diversité du cinéma d'animation contemporain. Donc on a cherché des films qui étaient représentatifs de ce qu'est le cinéma d'animation. Et effectivement, là, on a une proposition qui montre des courts-métrages, les saisons de Léon, c'est parfois l'image d'un studio qui est à Valence, dans le sud de la France, où là, on est sur une proposition pour la famille, très poétique, en animation en volume, donc c'est un bel univers et donc plusieurs films à découvrir. Et puis, à côté, on a aussi les courts-métrages DreamWorks, qui sont aussi des petits bijoux. Et puis, on a des courts-métrages qui, eux, sont plus pour les adultes, qui traitent du sujet de société, l'identité, l'identité sexuelle, le couple, le deuil, etc., etc.
Et puisqu'il est impossible de discuter avec son voisin de fauteuil, un chat a été inséré à la page YouTube pour que les spectateurs puissent échanger en direct et donner leur avis pendant le visionnage, où qu'ils se trouvent dans le monde. Entre 2 séances, le festival propose également des rencontres, conférences, avec par exemple Jackie Chan, Guillermo del Toro ou encore la réalisatrice Jane Campion.
I just fell in love with projects, with whatever it was, you know, that I was involved in the storytelling of.
Mais le but ultime, en plus de rendre accessibles des œuvres introuvables sur Internet, gratuitement, c'est surtout de mobiliser la planète entière à la lutte contre le Covid, qui a empêché cette année la bonne tenue de ces grands rendez-vous du cinéma. Alors parallèlement au visionnage, toujours sur YouTube, une collecte de fonds a été mise en place et sera reversée à la Fondation des Nations Unies.
Le festival We Are One, c'est donc sur YouTube jusqu'au 7 juin prochain. La programmation complète est à retrouver sur le site internet du festival et sur les réseaux de RFI. Vous avez été nombreux à l'écouter. L'an dernier, RFI diffusait déjà la fiction radio « C'est la vie » qui nous racontait le quotidien d'un centre de santé en Afrique. Eh bien, nous allons récidiver cette année avec une autre fiction radiophonique, toujours produite par l'ONG RAES, Réseau Africain pour l'Éducation et la Santé, Bianke, une histoire africaine au féminin, 12 épisodes produits en plusieurs langues sur le continent africain que vous pourrez découvrir sur les antennes de RFI à partir du 29 juin sur l'antenne en français, mais dès aujourd'hui en podcast sur RFI. Avec nous, pour nous la présenter, 4 invités sont en ligne. Bonjour Insa Sané.
Bonjour.
Vous êtes romancier, slameur, comédien et c'est vous qui avez écrit cette fiction radiophonique. Également avec nous, le réalisateur sénégalais Tidiane Tiang. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui l'avez mise en onde avec Alexandre Planck. Et puis également avec nous, Aïda Sok. Bonjour.
Bonjour.
Vous prêtez votre voix, Aïda Sok, au rôle-titre, donc au personnage de Bianke. On vous connaît déjà comme mannequin, comédienne, mais aussi chanteuse. Et puis Adama Diop, comédien bien connu des amateurs de théâtre en France et au Sénégal, est également en ligne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'un des personnages de l'histoire qui s'appelle L'âme solo et vous en êtes aussi le narrateur. C'est en effet votre voix qui ouvre chaque épisode.
Mon Afrique, c'est pas un continent, c'est un ventre. Un bouclier, l'origine du monde. Elle a le front digne, un nez fier. Et s'il eût été plus court, la face du monde aurait changé. Elle a des stigmates sur les joues et sur les tempes. On lui offre la noix de cola pour embrasser ses lèvres. Mon Afrique, personne ne la connaît mieux que moi. Je l'ai fréquentée sur les bancs de l'école. Les autres disaient d'elle qu'elle était un garçon manqué. Moi, j'avais à l'idée qu'elle était, qu'elle est et qu'elle restera la Vénus qui ouvre le chemin pour les membres de son clan. Les autres disaient, c'est une fille. Elle était bien plus qu'un homme. Elle était une femme en devenir. Et elle s'appelait Bianke, mon Afrique. Alors, laissez-moi vous parler d'elle, Bianke. On raconte toujours mieux une histoire quand on aime. Celle de Bianke commence un jour comme un autre, quelque part dans mon pays.
C'est donc par ces mots que s'ouvre chacun des épisodes de cette fiction radiophonique que vous avez écrite, Insa Sané. C'est déjà une façon de planter le décor, j'allais presque dire de planter le drapeau, parce que je reprends quelques-uns des mots qu'on vient d'entendre là. Afrique, digne, fière, femme, en devenir. Si je résume en disant que c'est une histoire africaine et optimiste nourrie par l'émancipation féminine, est-ce que c'est un bon résumé ?
C'est exactement ça. Et c'était la volonté de présenter l'Afrique non plus comme un territoire où la misère rompt toute forme d'optimisme, où on est tout le temps en train de d'attendre des pays occidentaux quelques miettes de richesse. Non, c'est aussi une manière de dire que notre histoire, on l'écrit nous-mêmes, et qu'il est possible, avec nos forces vives, et puis en même temps, en regardant à l'horizon, il est possible de se redécouvrir et de créer de nouveaux modèles.
Mais une Afrique créée à partir de nous-mêmes, dites-vous, Insa Sané, et notamment à partir des femmes.
À partir des femmes, évidemment, parce que je me souviens de cette citation qui dit que éduquer un homme, c'est éduquer un individu, et éduquer une femme, c'est grandir une nation. Donc, je partage l'avis que dans ces périodes de crise que l'on vit, peut-être que le salut viendra des femmes et de nouvelles propositions de modèles économiques, sociaux, politiques, environnementaux.
Alors c'est intéressant le mot « modèle » que vient d'utiliser Insa Sané. Aïda Sok, c'est vous hein, qui incarnez à la radio la voix et le personnage de Bianke. Est-ce que vous diriez que Bianke, c'est un modèle pour les femmes africaines ?
Oui, je dirais que non seulement c'est un modèle pour les femmes africaines, mais aussi pour les jeunes en général, parce qu'elle représente vraiment ce qu'est la femme du côté battante et puis qui n'a pas froid aux yeux et qui fonce juste et qui fait ce qu'elle a besoin de faire tout en restant accrochée à ses racines.
Oui, parce qu'elle a 26 ans hein, quand démarre l'histoire. Elle est cadre dans une entreprise de transport, mais elle va être licenciée. On ne va pas tout révéler, mais on va quand même dire quelques petits mots quand même pour planter un petit peu l'histoire. Aïda Sok, elle est licenciée parce qu'elle est trop honnête.
Oui, totalement. Elle est trop honnête et non seulement ça, elle est, elle est catégorique, en fait.
Oui, elle est sans concession, quoi, c'est ça. Elle refuse la corruption et elle le fait par honnêteté personnelle, mais elle le fait aussi, et ça c'est important parce qu'il y a une dimension politique qui arrive très très vite dans l'histoire, elle refuse la corruption au nom de son amour pour son pays. Elle estime que son pays vaut mieux que ça, quoi.
Exactement. Elle le refuse totalement. C'est pas seulement pour le côté personnel, mais il y a aussi le côté professionnel. Et en plus de ça, pour l'amour de son pays, parce qu'elle voudrait que son pays ait une meilleure image de ce côté-là.
C'est un personnage extrêmement positif, Aïda Sok.
Ah, totalement. Elle est vraiment positive, même si des fois on peut la juger d'être un peu dure ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment tout ce qu'elle fait part de bonnes intentions pour son pays.
Oui, elle a bon cœur. Elle est attentive à ceux qu'elle rencontre. Elle est tenace aussi, hein, quand même. Elle va au bout de ses idées et de ses engagements.
Très tenace.
Et notamment, elle va s'engager en politique jusqu'à se présenter aux élections municipales. Vous-même, Aïda Sok, vous avez un très beau parcours déjà. Vous êtes partie étudier aux États-Unis, vous êtes mannequin, chanteuse, actrice. Est-ce que vous lui ressemblez un petit peu à Djanke ou est-ce que vous lui ressemblez beaucoup?
Je dirais beaucoup. Je dirais beaucoup. Elle a vraiment ce côté que j'essaye d'incarner tous les jours en tant que femme qui habite au Sénégal et qui essaye de vraiment s'imposer dans les différents mondes, dans le monde de la culture, on va dire en général, et aussi dans le monde professionnel, tout en essayant de montrer une bonne image et de porter une voix qui soit complètement positive et qui éduque aussi, qui apprend et qui apprend. Voilà.
Adama Diop, vous qui avez la vision à la fois de la scène théâtrale sénégalaise et de la scène théâtrale française, est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué pour une femme de devenir actrice à part entière, comme l'est maintenant Aïda Sok, dans l'un ou l'autre des deux pays? Adama Diop, est-ce que vous m'entendez?
Bah, en attendant, je vais essayer de répondre un peu à cette question. C'est, en étant comédien, faut pas se voiler la face. C'est toujours plus compliqué pour une femme, quel que soit le pays, aux États-Unis, en France, en Afrique, c'est toujours un peu plus compliqué de s'imposer parce qu'on attend souvent qu'elle soit à la fois belle, jeune, quelle est sa sensibilité, et c'est pas forcément ce qu'on réclame d'un comédien homme. Donc forcément, il y a plus d'entraves pour une femme dans le milieu professionnel artistique que pour les hommes. Je donne un exemple qui est simple. Hein. Quand je voyage tout au long de l'année pour faire des conférences, des concerts, jamais on me pose la question de qu'est-ce que vous faites de vos enfants en attendant. Une femme qui voyage beaucoup, qui a des scènes, des représentations, souvent elle lui est posée cette question-là. Mais vous avez des enfants ? Comme s'il fallait, quelque part, qu'elle ait honte de mener son métier alors qu'elle est mère.
Alors, on a retrouvé Adama Diop. Alors, il va pouvoir maintenant répondre à son tour à la question, même si une sassanée en votre absence a fait de son mieux.
Super. Non, effectivement, je dois dire quand même que j'ai beaucoup travaillé en France. Donc, on va dire que j'ai peut-être une vision un peu plus précise de la scène théâtrale française que sénégalaise. Par contre, effectivement, je pense que ce que partagent les femmes, que ce soit en France, au Sénégal ou dans le monde, c'est déjà une vision tronquée, une vision qui est très complexe, une vision bourrée de clichés, qui fait qu'effectivement, ça va être beaucoup plus complexe pour une femme de vouloir faire ce métier-là avec les complexités d'un machisme qui est latent, qui est là depuis la nuit des temps. Et effectivement, le Sénégal ne va pas échapper à ça. Je pense que c'est un pays qui, c'est là où je pense que Djanke est très très beau. Quand on parle de pays en devenir, de vision en devenir, je pense qu'encore aujourd'hui, pour une femme, c'est complexe d'assumer déjà son rôle de femme dans la société, de femme émancipée, de femme unique, parce qu'il n'y a pas une manière d'être une femme, et en plus de faire un choix, une carrière artistique. Et c'est évidemment une complexité qui est difficile pour toutes les femmes, que ce soit en France ou au Sénégal.
Alors, parmi les personnages féminins de la série, il y a aussi Abby, la cousine de 20 ans de Djanke, jouée par Yaye Diosek.
Abby ? Abby, t'es là ? Abby ? Abby, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu pleures ?
Il ne m'écoute plus, Djanke. Il prétend qu'il me remboursera et qu'il reviendra. Elle fréquentait depuis 2 ans un garçon à qui elle avait prêté toutes ses économies pour ouvrir un commerce de sport, malgré les avertissements de Dianke.
Calme-toi, calme-toi. Je suis là, raconte-moi.
Il venait de lui avouer qu'il avait tout donné à un passeur.
Il dit qu'il va faire la traversée pour moi, Dianke.
Ah, les hommes, ils oublient bien vite qu'on les a portés dans notre ventre.
Dianke connaissait bon nombre de femmes dont les compagnons avaient été avalés par l'océan ou le désert, s'ils n'avaient pas fini dans les bras d'une autre, plus blanche, plus vieille, moins pauvre.
Calme-toi.
Dianke, qu'est-ce que je vais faire? Papa ne doit pas être au courant. Qu'est-ce que je vais faire?
T'inquiète pas. Tu dois penser à toi. Ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Allez, sèche tes larmes.
Comment est-ce que vous avez écrit vos personnages, Insa Sané? Vous avez rencontré, vous avez interrogé des jeunes femmes comme Dianke ou comme sa cousine Abby?
Je dois avouer que je n'étais pas retourné au Sénégal depuis 2009. Et en 10 ans, donc la dernière fois, depuis 2009, j'ai pu retourner l'an dernier au mois de mars 2019. Et donc un pays en 10 ans change. Et les pays de l'Ouest Afrique, les villes de l'Ouest de l'Afrique se transforment à une vitesse grand V. Donc c'était nécessaire d'aller à la fois me ressourcer, mais en même temps redécouvrir ce pays dans lequel je suis né et essayer de voir toutes ces contradictions. Toutes ces contradictions. Donc oui, effectivement, j'ai interrogé des femmes dans les marchés, j'ai été au contact d'étudiants, j'ai été au contact d'associations, d'ONG qui travaillent contre la corruption, j'ai rencontré des politiciens, j'ai rencontré énormément de gens, j'ai beaucoup marché aussi pour voir l'architecture de la ville de Dakar notamment. Donc oui, c'est essentiel quand on est écrit une fiction de ne pas trop s'éloigner de la réalité. Et en fait, ce que je voulais éviter déjà, c'était de tomber dans le pathos. Ce que je voulais éviter, c'est d'être dans un truc où on fait croire qu'on a toute la vérité et toutes les solutions. Il fallait également créer des personnages attachants. Quel que soit leur rôle dans l'histoire, dans l'intrigue. Je suis pas quelqu'un de manichéen, donc j'aime bien c'est avoir des personnages qui sont subtils qui sont subtils, forts et souvent fragiles à la fois. Donc oui, quand j'ai écrit cette histoire, je voulais que ce soit une belle fiction, d'où le choix également de laisser une place importante à la narration qui est de 65% par rapport au dialogue, ce qui en général n'est pas le cas dans les fictions traditionnelles, les fictions radiophoniques traditionnelles, mais je voulais apporter de la poésie, je voulais aussi lancer un clin d'œil à la culture africaine avec les griots, mais sans tomber dans un truc où on est sur du ton sur ton. Mon griot à moi, c'est un rappeur, c'est un raconteur moderne.
Voilà, donc c'est l'âme solo hein, qui est donc le narrateur et auquel vous prêtez votre voix, Adama Diop. Qui est-il ce l'âme solo par rapport à Dianke? On le découvre pas tout de suite d'ailleurs dans la fiction.
Non, c'est ça que je trouve effectivement hyper intéressant, c'est qu'on découvre la narration par le filtre de ce conteur, de ce l'âme solo. Qui juste fait une petite au début voilà un petit signe en disant on raconte mieux quand on aime, donc on se doute qu'est-ce personnage. Donc oui, l'âme solo c'est un artiste musicien qui se bat pour aider les jeunes et qui va effectivement trouver un moment extrêmement important dans l'ascension de Dianke. Et dans la sienne personnelle aussi, pour pas trop raconter non plus l'intrigue, je laisse aux auditeurs de découvrir l'intrigue, pour pas trop raconter, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être à un moment donné très important dans l'ascension de Dianke et dans son ascension personnelle.
Dans le café, je faisais les derniers réglages de micro pour Nino.
Attends 2 secondes, Nino.
Un des jeunes qui allait slammer.
Attends, recule-toi du micro, s'il te plaît. C'est bon, là, balance. Ouais, attends.
Il fréquentait la salle depuis qu'il avait 12 ans. Il avait grandi sans mère.
Ok, c'est bon, tu peux y aller.
Et c'est ça le pire. Alors, il voulait toujours en découdre. Et ses textes ne parlaient que du monde violent qu'il côtoyait tous les jours. Le gamin allait se lancer quand elle est rentrée. Dianke.
Bonjour.
Même si sa crinière s'était étoffée, elle avait toujours cette manière si propre à elle d'être une femme.
Un extrait de l'épisode 4 de Junkie à découvrir donc sur RFI et dès aujourd'hui en podcast. Alors vous avez, c'est le moins qu'on puisse dire, une très belle voix, hein, Adama Diop, une vraie voix de conteur, de grieux, je ne sais pas, mais en tout cas une voix chaude que vous avez d'ailleurs déjà mise au service d'autres fictions radiophoniques, hein, notamment pour nos amis de France Culture. Vous avez une grande expérience des planches, vous avez été le Macbeth de Stéphane Braunschweig à l'Odéon, vous avez joué à Avignon dans le spectacle de Julien Gosselin sur l'œuvre de Don DeLillo, vous avez aussi joué Coltès, Marine Diaye, Brecht, Molière, Marivaux, Tchekhov et j'en passe. Jouer à la radio et jouer sur scène, est-ce que c'est le même métier?
Ça reste le même métier. Je pense que la chance qu'on a, acteur, c'est de pouvoir se glisser dans différentes manières de travailler, avec différents langages. Et je pense que c'est pour... J'aime beaucoup le terme interprète, parce qu'il s'agit de... À chaque fois qu'on repart au travail avec un artiste différent, avec un média différent, de se mettre au service d'eux. Et en tout cas, ce que j'aime beaucoup à la radio, c'est que peut-être qu'on est plus concentré sur la littérature, sur la langue. Il est moins question de notre corps qui bouge, il est moins question de notre visage, il est moins question de ce rapport, on va dire, un petit peu à l'ego du corps et de ce qu'on voit. Là, on est vraiment centré sur l'histoire, sur le sensible, le micro, les sons, la douceur. Donc c'est quelque chose de très beau. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, j'ai fait plusieurs fictions et chaque fois, j'accours quand on me propose parce que je trouve qu'on a une concentration qui est très belle. Par ailleurs, j'adore le théâtre, il y a d'autres enjeux.
Mais même si à la radio, on ne voit pas votre visage et votre corps, est-ce que vous utilisez aussi le corps pour interpréter le personnage?
Oui, moi j'ai besoin vraiment d'utiliser mon corps. Je me rends compte souvent que ça a été d'ailleurs un travail très très intense, comme disait un chat. Effectivement, la plus grosse partie de cette fiction est de la narration. Et en fait, je n'ai pas réalisé à quel point ça allait être physique d'être dans une cabine, d'être à chaque intention, à chaque mot, à chaque moment, à chaque émotion. Et effectivement, à la fin de la journée, j'étais extrêmement fatigué, j'étais épuisé parce que c'est pas quelque chose juste. On n'est pas juste devant un micro à parler. Le corps est vraiment investi tout le temps. Donc effectivement, le corps est, en tout cas particulièrement dans ma manière d'aborder le métier d'acteur, est très très présent.
Alors, Tidiane Tiang, vous êtes avec Alexandre Planck, le co-réalisateur de Junkie. Vous avez déjà d'ailleurs réalisé C'est la vie, hein, l'autre feuilleton radiophonique qu'on a entendu sur RFI, qu'on évoquait tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez dirigé vos acteurs? Comment ça se passe justement de part et d'autre de la vitre de cette cabine d'enregistrement?
Je pense que quand on fait de la fiction radiophonique, on nous donne un texte sur lequel on travaille avec l'auteur, Insa. Et je pense que ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à raconter aux auditeurs, à partir de ces textes, de faire sortir des paroles, comment situer les mots de Insa dans un décor, dans de la musique, comment créer une ambiance, comment Insa a aussi pensé son texte. Et donner une densité, donner une couleur aux paroles, tout ça. Et pour ce faire, je pense qu'il y a eu vraiment un travail d'équipe, je dirais, parce que Alex Planck et moi, on avait la même sensibilité, en fait, par rapport au texte d'Insa. Et aussi, nous, notre rôle, c'était pas de faire le travail des comédiens, parce qu'Adama, c'est un plaisir de travailler avec lui, parce qu'il a une intelligence des textes. De même qu'Aïda, qui est extraordinaire, on n'avait pas souvent besoin de les diriger vraiment parce qu'eux aussi, ils avaient leur propre sensibilité qu'ils arrivaient à faire passer à travers les textes d'Insa.
Mais vous, voilà. Aïda Sok, c'était votre première expérience de fiction radiophonique. Hein. Autant Adama Diop commence à avoir déjà une belle expérience de ce genre d'exercice, vous, c'était la première fois. Qu'est-ce qui vous a surpris?
Effectivement, c'était la première fois. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point ce micro, il entend tout. Tidiane, il sait. Et Alex, ils savent. Au début, il me fallait un petit temps pour m'habituer parce que, comme Adama, il expliquait tout à l'heure, pour moi, en tant qu'actrice, il y avait beaucoup de jeux avec le corps aussi. Même s'il n'y avait pas de caméra, il fallait se mettre complètement dans le rôle, que ce soit à la voix que physiquement aussi. Et de pouvoir vraiment donner ce qu'il fallait dans la voix avec l'émotion qu'il fallait. Et ça, c'était vraiment une expérience qui a été vraiment enrichissante. Et c'était pas facile au début, mais on a réussi à y arriver.
Oui, il faut une articulation parfaite aussi, puisque tout passe effectivement par la voix. Ça veut dire qu'il faut en permanence recommencer, c'est-à-dire remettre en permanence l'ouvrage sur le métier.
Exactement, parce que c'est il y a non seulement les émotions, mais il faut articuler, parce que les gens, ils font qu'entendre, ils ne voient pas. Donc, ils doivent pouvoir comprendre et sentir en même temps, rien qu'en écoutant.
Comment est-ce que vous avez enregistré Tidian Tiang? Parce que c'est un travail de cabine, c'est un travail de studio pour les comédiens, mais il y a aussi tout un travail de terrain, j'imagine, aussi pour capter les sons de la rue, les vrais sons, pour fabriquer les ambiances sonores qui rythment le récit.
Oui, ça, je pense que c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on faisait avant, surtout en Afrique, c'est-à-dire qu'on était tout le temps dans des cabines, tout se faisait en studio. Et avec C'est la vie, comme avec Djanké, on tournait en décor réel, c'est-à-dire que si une scène devait se passer dans la rue, on était dans la rue et on tournait la scène. Donc c'était un peu du cinéma radiophonique sans la caméra. Donc voilà, c'était ça aussi, l'idée d'être léger au niveau du matériel qu'on avait pour pouvoir enregistrer et se déplacer dans Dakar facilement avec les comédiens. Voilà, donc on a utilisé vraiment du matériel assez disons, souple. Et puis on a tourné en décor réel, que ça soit dans les marchés, que ça soit dans les rues, que ça soit dans les voitures. On était dans une voiture. Donc il y a moins d'habillage sonore et de bruitage qu'on prend souvent dans des sites pour les mettre dans les feuilletons radiophoniques. Ça, c'est fait vraiment en temps réel.
Et quel accueil vous avez reçu de la part de la population de Dakar et d'Assoc?
Franchement, c'était ça. Je pense que Tidiane comme Alex, ils peuvent répondre à cette question. C'était assez intéressant. Les gens, ils étaient assez curieux et ils se demandaient toujours mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils ne voient pas de caméra. Ils ont tendance à avoir des caméras en général. Et là, ils ne voient pas de caméra, ils voient juste un micro. Donc, il y avait beaucoup. Ils étaient très intrigués et en même temps, très à l'écoute. Et ils nous ont vraiment aidés, franchement.
Vous avez demandé aux gens de participer, Tidian Tiang, par exemple, faire un brouhaha, faire entendre une foule. À un certain moment, il y a un meeting politique hein, dans la fiction. Il y a comme ça les gens de la rue qui sont devenus aussi des comédiens d'un jour, ne serait-ce que pour quelques minutes.
Oui, on a eu des jeunes qui étaient tout le temps à côté de nous. Et le moment où Djanké faisait sa... disait sur les réseaux sociaux qu'elle va se battre contre la corruption. On avait des jeunes à côté et après, on les a demandé de nous faire des cris de Djanké la lionne, Djanké la lionne, et puis ils nous ont fait ça et c'était vraiment magnifique.
Et ils étaient à fond.
Oui, allez-y.
Je disais juste qu'ils étaient à fond dedans, ils étaient complètement dedans.
Vous m'en direz des nouvelles? Sur RFI.
VMDN autour de la série radiophonique Djanké que vous pourrez découvrir dès aujourd'hui en podcast sur RFI.fr et à partir du 29 juin dans votre poste de radio avec nous Insa Sané qui l'a écrite, Aïda Sok qui joue le rôle titre, Adama Diop qui interprète l'âme solo qui est aussi le narrateur et Tidian Tiang co-réalisateur avec Alexandre Planck.
Dans mon pays, la politique c'est l'affaire des hommes, des vieux, des bien-nés. Une espèce de sainte trinité implacable. Seulement, on rêve tous de jours meilleurs. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, pauvres et riches. La preuve, c'est qu'on n'oublie jamais de dire bonjour à celui que l'on croise. Rien ne saurait être plus urgent que nos salam alek. On croit dur comme un sourire qu'après la nuit, se lèvera le jour. Nul ne se souvient que nos aïeux avaient bâti des pyramides, que la chimie prend racine dans la couleur de notre peau, que les Amazones du Dahomey ont accouché des suffragettes. Djanké ignorait tout de ces histoires qui avaient brûlé en même temps que les palais. Elle avait la conviction que pour veiller sur le plus grand nombre, on ne doit pas abandonner les plus faibles.
Adama Diop, comment est-ce que vous pourriez nous décrire la langue d'Insa Sané telle qu'elle apparaît dans cette fiction radiophonique?
C'est une langue qui est très riche. C'est-à-dire qu'en fait... c'est ça aussi qui est beau quand on est acteur, c'est qu'on s'adapte à chaque manière d'écrire. Et la langue d'Insa, c'est c'est pas un langage quotidien, c'est pas quelque chose qu'on pourrait juste voilà, c'est une langue qui est qui nécessite encore une fois un engagement physique, qui nécessite, parce que c'est très imagé. C'est là où je trouve ça assez beau ce qu'il a fait en ça, c'est que on est entre le conte et à la fois on a, je pense qu'il est allé vraiment chercher aussi dans quelque chose de très très moderne. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, en termes de référence, en termes d'image, en termes de, voilà, il fallait tout le temps être au qui-vive, sur le qui-vive, que tout le temps être présent pour pouvoir justement réussir à trouver cette légèreté dans la manière de raconter et à la fois cette précision, cette acuité pour pouvoir, voilà, interpréter la richesse. Et c'est une langue, quoi. Il faut la mâcher, il faut la parler, il faut l'articuler.
Oui, voilà. C'est très beau hein, ce que dit Adama Diop, Itza Sané. J'imagine que vous vous retrouvez pleinement dans ce qu'il nous décrit, notamment quand il explique justement qu'on est à la fois entre quelque chose de très moderne, de très contemporain, donc d'une certaine façon de très réaliste, et en même temps dans cette dimension de conte, dans cette dimension narrative. Comment est-ce que vous avez dosé justement entre ces deux plans-là?
Moi, quand j'écris vraiment avec tout mon être. Je suis à la fois comédien, à la fois écrivain, à la fois chanteur. J'adore le cinéma. Donc j'écris avec tous ces pans de moi-même et j'écris aussi avec toutes les références que j'ai. Victor Hugo, Chester Himes, Lamine Camara, tous ces auteurs qui m'habitent font que quand je crée une histoire, j'ai besoin d'aller visiter tout mon spectre. Et en même temps, ce qui était quand on me donne l'occasion, la chance de travailler sur Dianke, et je remercie l'ARAES, je remercie également Romain Masson qui m'a fait confiance pour ce projet, quand ils viennent me trouver, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau à ce qui existe déjà, écrire avec ma sensibilité, donner à voir ce que je suis à travers cette œuvre-là. Et c'était important pour moi qu'il y ait énormément de musique, créer cette fiction à la manière d'un film de cinéma avec une bande originale qui va avec. Et c'est pour ça que Cab, qui a travaillé sur les compositions, a été crucial, parce que c'est un compositeur de talent, un guitariste hors pair, et il a fait en sorte que la musique soit un personnage à l'intérieur même de notre histoire. Et il fallait que j'accompagne ce geste-là avec de la poésie, avec de la modernité, avec du langage parlé aussi, avec essayer de faire en sorte que chaque personnage ait sa façon de se raconter.
Avec donc une langue imagée, poétique, très rythmée aussi. Hein. Là, on sent un petit peu le slammer qui est en vous.
le slammer, le rappeur qui est en moi.
Parce que c'est à la fois une langue très écrite et une langue très orale. C'est ça qui est étonnant.
C'est une langue qui est accessible. C'est ça, mon boulot à moi depuis des années, c'est de faire en sorte que la langue soit accessible et universelle. Essayer de faire en sorte que ceux qui le lisent ou qui l'écoutent aient envie de répéter les mots. Quand j'étais gamin, je lisais énormément de poésie et j'aimais apprendre des citations par cœur. Et je crois que c'est ce qui a forgé aussi mon écriture. Tout l'été, je me coltinais, je soulignais les phrases qui m'intéressaient, notamment dans un livre. J'avais lu son regard trahissait la fréquentation assidue de l'alcool. Et ben, cette phrase, elle m'habite. Et quand j'écris, j'ai toujours ces réminiscences-là. Et j'aime à faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on partage, une écriture qu'on partage.
Et vous utilisez aussi beaucoup d'aphorismes et de proverbes. Alors j'en ai relevé quelques-uns hein, à travers mon écoute. Le grain de riz aura toujours tort face à une poule. Les parures des parents ne doivent jamais devenir des chaînes que portent les enfants. Quand le lion fait les yeux doux à l'antilope, c'est pour mieux lui montrer les crocs. Un tronc d'arbre peut rester 100 ans dans l'eau. Il ne deviendra jamais crocodile. Là aussi, on a les images, mais on a aussi la force du message. Là, ce sont des expressions qui parlent aujourd'hui en Afrique, Aïda Sok, ces expressions-là.
Si on les prend et qu'on les met en wolof, oui, on les entend régulièrement, je peux dire. Parce qu'il y a des proverbes qui sont traduits. Il y en a qui. La langue, le wolof en question est une langue qui est une langue de proverbes, en fait. C'est une langue très imagée. Donc, je dirais que tous ces proverbes-là, ça ne choque pas à l'oreille, en tout cas, de les entendre, parce que c'est quelque chose de très habituel pour nous, ici au Sénégal, d'entendre des proverbes tout le temps. Et c'était quelque chose qui était très intéressant par rapport à la traduction quand on faisait la version en Wolof. Parce que pour traduire les textes du français au Wolof, c'était très... on s'en rendait compte qu'une grande phrase en français pouvait être juste un proverbe en Wolof.
Oui, alors c'est intéressant que vous parliez de cette question de la traduction, parce que Tidiane Tiang, Dianke, ce n'est donc pas seulement en français. Vous l'avez tourné dans combien de langues au total?
Ben là, on a déjà la version française et la version Wolof qui sont déjà disponibles. Et puis là, on a lancé les traductions pour les autres langues. Donc, on va l'avoir aussi en Haoussa, en Fulfoudé et en Malinké.
Et donc, à chaque fois, vous utilisez des comédiens qui sont natifs de la langue que vous avez choisie? Comment ça se passe?
Oui, bon, d'habitude, quand on part, par exemple, au Niger, on a déjà des comédiens qui sont là-bas. On fait le casting avec un directeur artistique sur place qui parle bien les langues. La traduction est faite par aussi des scénaristes qui vont l'adapter en utilisant vraiment des proverbes qui les parlent eux. Ça, c'est aussi une autre dimension. Parce que l'idée aussi, c'est d'avoir une approche communautaire, que les communautés, quand ils écoutent Dianke en langue Haoussa, que ça soit un Dianke qui les parle à travers laquelle ils s'identifient, en fait. Donc, voilà, c'est un travail qu'on fait aussi au niveau local avec des techniciens aussi, qu'on forme d'habitude sur place. Parce que aussi le projet a une dimension de formation, de transmission, de savoir-faire, parce que l'idée aussi c'est de continuer à produire des fictions comme ça un peu partout en Afrique de l'Ouest.
Elle a tant de force en elle, chose qu'elle qui fait que je l'ai kiffé, donc je te cause d'elle. Elle ne quitte pas mon esprit, pour qu'elle y reste, en secret je prie. Je n'ai pas besoin de te citer, juste réciter ce qu'en moi tu suscites. Si tu te perds si tôt, je te situe, c'est qu'à chaque dispute, mon amour ressuscite. Elle n'a rien de spécial, pourtant elle est unique, belle quand tout est unique. Quand j'ai le moral en loque, ses sourires me soutiennent, disent faut qu'on tienne, boum, celle-là elle est mienne.
No me dejes, no te vayas, quédate conmigo.
Papa l'a fait, toi ne me quitte pas, ne pars pas, reste près de moi. Je veillerai sur toi, on inversera les rôles, pour que tu ris encore, j'arriverai à être drôle. Depuis tant d'années, autant de sacrifices que de points de suture. Pour ces sacrifices, ton, elle a les mots pour combler les fissures. Mon fils oublie le passé, pense à ton futur. Avec nous, elle est dure, elle nous crie dessus. J'ai beau jouer, elle est dure, je ne crains qu'elle. Tu trouves ça marrant? Même au moment de ma mort, je l'appellerai maman.
Tevayas sur RFI, un extrait de la musique originale de Dianke, une chanson que vous avez écrite, donc vous le disiez tout à l'heure, Insan Sané avec Cab, hein, l'un de vos vieux complices, avec également la participation d'Abdoulaye Sissoko. Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? Vous avez accompagné la composition de chacun des morceaux? Vous lui avez donné le texte et ils se sont débrouillés? Comment ça s'est passé?
Alors à chaque fois, c'est une méthode différente. Ce qu'il y a, c'est que ce que j'aime dans le travail avec Cab, c'est qu'on arrive, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, 15 ans même qu'on travaille ensemble, et à chaque fois, on arrive à se surprendre. Il arrive avec une musique qui fait que je suis fasciné et les mots viennent tout seuls. Et des fois, je viens avec des textes, et lui, il se met également en challenge, et il va produire le son la musique qui colle parfaitement à l'esprit du texte, notamment sur l'un des morceaux de la série qui s'appelle Fragile. Il a initié la musique et tout de suite il y a eu le schéma narratif qui m'est venu et puis la semaine dernière, en l'espace de 30 minutes, j'avais écrit une chanson dessus. Donc c'est un travail qui est minutieux, mais c'est un travail qui est passionné en fait. On est des passionnés, on laisse aucun détail au hasard, mais on veut aussi cette fragilité dans ce qu'on fait. On veut pas quelque chose de parfait, on veut quelque chose qui soit accessible, encore une fois, à tout le monde.
Quelque chose d'humain, peut-être, ainsi, tout ça, simplement.
Exactement.
Et c'est vrai, Tidiane Tiang, que c'est quand même assez extraordinaire hein, de construire comme ça une fiction radiophonique, parce que donc il y a la musique qu'il a fallu insérer, j'imagine, en post-production. Il y a tout le travail de montage aussi entre les ambiances, les textes des comédiens, les bruitages, le générique, les silences aussi. Hein, c'est important. Quel est le bon dosage? Est-ce qu'il y a une recette, une façon de fonctionner qui garantisse effectivement de retenir au mieux l'attention des auditeurs?
Je pense qu'avant tout, il y a une sensibilité qui doit être partagée par tout le monde, en fait, que ce soit l'auteur, que ce soit les comédiens, que ce soit les réals, en fait. Et ce qu'on a essayé de faire avec Alexandre Planck, c'est d'arriver vraiment à trouver cette subtilité, le juste milieu entre toutes ces sensibilités et de les mettre en ensemble. Et puis après, pour les auditeurs, la musique qui est la base de cette fiction, je pense que ça va parler à tout le monde. Et c'est cette sensibilité que quand on fait de la musique, on fait un morceau, on se pose pas forcément la question à savoir si ça va plaire à tout le monde, mais ça arrive que ça puisse plaire à tout le monde. Donc voilà, l'idée c'était d'arriver vraiment à mettre tout ça ensemble avec notre sensibilité. Et on espère que ça va aussi parler aux auditeurs un peu partout dans le monde.
Mais parce que comment retenir au mieux, je répète ma question, l'attention des auditeurs? Parce que souvent à la radio, y compris d'ailleurs en podcast, on écoute en faisant autre chose, en faisant la vaisselle, en conduisant, dans les transports en commun par exemple. Comment faire en sorte que l'auditeur soit attentif jusqu'au bout, comprenne l'histoire et comprenne aussi le message qu'il y a derrière les textes sans perdre le fil? Comment on fait?
Les études ont prouvé qu'en fait, pour retenir l'attention des gens qui écoutent la radio, c'était, je pense, en 30 secondes et une minute. Chaque fois, tu les perdais, en fait. Donc, c'est un peu difficile de les avoir tout le temps. Ça, c'est les études qui le prouvent. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait des respirations, qu'il y ait des répétitions, que le message soit là et que le message soit vraiment, facile à comprendre, à capter par les auditeurs. Donc l'idée c'était d'aller vers ça. Mais c'est un peu difficile quand même d'avoir les auditeurs tout le temps, qu'ils soient scotchés à la radio en écoutant tout du début à la fin. On les perd souvent et c'est ça aussi la magie de la radio, parce que c'est cette interactivité qu'il y a entre l'auditeur et le fait d'écouter en regardant, je ne sais pas, en faisant le ménage ou bien en préparant un plat de Tchéboudjian, quoi.
Oui, effectivement, la magie de la radio et puis l'utilité aussi, complémentaire finalement du podcast qui permet cette fois-ci de se poser et d'écouter de façon beaucoup plus continue et beaucoup plus attentive. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous dans VMDN, Aïda Sok, Tidiane Tiang, Adama Diop et Insa Sané. Djanké, donc, à découvrir dès aujourd'hui en podcast sur RFI.fr. Djanké qui sera diffusé à partir du 29 juin sur RFI en français à 19h10 temps universel, 21h10 en heure de Paris, et qui sera ensuite mise à disposition d'une centaine de radios partenaires de RFI et dans plusieurs langues dès le premier semestre 2020. Merci.
Chez moi, il y a la famille que j'ai choisie. Chez moi, c'est un bol juste assez grand pour y faire tenir le monde. Chez moi, se danse sur des airs de tralali, la lalère, en tapant sur les bidons, sur les pots, y'a la poussière qui s'évapore. Chez moi, l'ennui à l'ombre et à la lumière, de midi et quart, attend que repousse la queue des lézards. Chez moi, s'écrit en langage indigène, c'est ce lieu dit comme on est, alors d'abord, chez moi, se crie avec le cœur.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
L'épidémie de coronavirus porte un coup dur au spectacle vivant. La scène théâtrale de Buenos Aires est très réputée et fait figure même de référence en Amérique latine. Mais le confinement, qui est toujours en vigueur en Argentine jusqu'au 7 juin, place les professionnels de ce secteur dans de grandes difficultés. La plupart n'ont d'autre choix que de s'adapter pour tenter de survivre. Écoutons le reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
Los espacios culturales fuimos de los primeros en cerrar y vamos a ser de los últimos en volver a abrir.
Les espaces culturels ont été les premiers à fermer et nous allons être les derniers à rouvrir. Dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'espace artistique Animal appelle à la solidarité de ses spectateurs réguliers.
C'est un espace qui survit grâce à l'amour et aux efforts de nombreuses personnes. Nous avons besoin de ton aide.
Necesitamos tu ayuda.
Le confinement obligatoire, décrété le 20 mars en Argentine, a beaucoup affecté l'économie de l'espace animal, comme l'explique sa directrice Martina López.
Ça a été un coup très dur, j'étais sous le choc, je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait. Et donc on a lancé cette vidéo, une sorte de petite campagne solidaire, en proposant de faire des contributions et d'obtenir des réductions. Par exemple, avec ce montant, tu as une entrée pour un spectacle, avec cet autre montant, une entrée et une réduction au bar du théâtre. Tout cela valable potentiellement en 2021, et je dois dire que les gens ont répondu présent.
Grâce à ces contributions, Martina López a pu payer une partie du loyer et des factures d'Animal. Pour limiter les pertes, certaines salles se sont mises à la rediffusion de spectacles sur Internet. C'est le cas de Timbre Cuatro, une référence du théâtre indépendant à Buenos Aires. Sur son site internet, Timbre Cuatro rediffuse des représentations filmées avant le confinement, comme Nerium Park, une pièce dans laquelle un couple venant d'emménager dans un complexe immobilier flambant neuf se délite. Après le visionnage, le théâtre propose à ce public virtuel d'apporter une contribution du montant de son choix. Timbre Cuatro cherche aussi aujourd'hui à développer d'autres formats. Maxime Seger, français installé depuis 15 ans en Argentine, est le producteur général du théâtre.
Il y a des différents types de spectacles, à notre avis, par exemple des stand-up avec des micros ouverts. Donc l'expérience d'écouter tout le monde rigoler et tout ça, et d'avoir un gars qui fait du stand-up, ça aussi, ça me paraît des trucs sur lesquels ça peut marcher. Alors c'est très spécifique, c'est pas ce qu'on fait normalement. Mais bon, pour compléter, pour essayer de tester les formes, je pense que c'est bien. Après, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va montrer des répètes. Des répètes à distance. Et on est dans cette recherche-là de voir qu'est-ce qui peut vraiment fonctionner.
En plus des représentations, le confinement complique la tenue des cours de théâtre, une source de revenus essentielle pour de nombreux acteurs. Vanessa Madia est comédienne et professeure.
Je continue de donner des cours, mais de manière virtuelle. Mais on se demande régulièrement comment on va faire du théâtre, de la fiction, du jeu. Comment va-t-on adapter ces enseignements dispensés à des acteurs qui sont censés se retrouver sur une scène, mobiliser leur voix, leur corps, alors que tout cela disparaît aujourd'hui derrière un écran.
Vanessa Madia est membre du collectif Professeur indépendant de théâtre qui s'est formé durant le confinement et appelle à la reprise des cours présentiels et des représentations à Buenos Aires tout en respectant des normes sanitaires strictes.
Nous comprenons l'urgence sanitaire et nous comprenons que la priorité est la santé des gens. Mais je pense qu'au bout d'un moment, la demande va être de plus en plus forte pour que nous puissions exercer notre métier et remonter sur scène. Avec moins de public s'il le faut, mais le théâtre, c'est quelque chose qui a besoin de ce caractère présentiel. C'est une expérience entre acteurs et spectateurs, quelque chose qui sort du quotidien et qui est magique.
Aucune date de réouverture des théâtres n'est encore prévue dans le pays, mais les artistes espèrent pouvoir remonter sur les planches à partir du mois de septembre.
Reportage d'Aude Villiers-Moriamé pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. À demain et vous m'en direz des mots.